Session sur le jugement de sagesse à Saint-Jeudard par le père Philippe, le 24 janvier 1988.
Je reviens un instant sur ce que je vous disais hier, étant donné une question qui m'a été posée. Comprenons bien que le jugement de sagesse n'est pas un a priori. Je comprends très bien que pour notre intelligence humaine, qui n'a pas encore fait toutes ses démarches, qui est au point de départ, la découverte du travail, de l'amitié, de la coopération politique, et qui n'a pas encore vraiment découvert le mystère de l'être premier, le mystère de la création, ça puisse sembler un a priori. Pour le croyant, il sait très bien que c'est en raison de la foi. Alors, la foi, pour le philosophe, peut sembler un a priori. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est purement philosophe et qui n'a pas la foi, vous avez le soin toujours de dire « j'affirme cela en raison de ma foi » ou au contraire de dire « j'affirme cela en raison de ma recherche philosophique ». C'est très important pour respecter le dialogue. Quand on ne le fait pas, le dialogue tombe très vite. Quand on le fait, le dialogue peut durer. Parce qu'on parle à l'athée pour réveiller en lui l'homme. C'est pas premièrement pour faire de lui un croyant. C'est pas l'athée qui est baptisable. Celui qui est baptisable, c'est l'homme. Et donc vous devez réveiller dans l'athée l'homme. Et vous pouvez ensuite, en tant qu'homme, lui faire comprendre que le mystère de la foi n'est pas contraire au développement de son intelligence. Tandis que si tout de suite vous regardez l'athée et vous parlez de la foi, il y a une contradiction entre la foi et la position de l'athée. Et donc vous le mettez dans une position dialectique, d'où ne sortira jamais rien. Vous devez réveiller dans l'athée l'homme. C'est beaucoup plus long. Créer même avec lui une amitié. Quand j'ai eu ce dialogue avec les Freudiens à Paris, j'ai très bien compris. Dès le point de départ, c'est eux qui venaient me demander quel est le lien possible entre Freud et Aristote, puisque tous les deux partent de l'expérience. Et vous comprenez, quand des Freudiens viennent vous demander ça, vous n'avez pas le droit de refuser. Si vous êtes d'attaque, et si vous avez le temps, vous n'avez pas le droit de refuser. Refuser, ça voudrait dire que, ben oui, vous n'avez pas le courage de montrer que le freudisme diminue l'homme. Vous comprenez bien qu'on s'est placé dans un point de vue purement philosophique, d'expérience humaine. Et ce n'est qu'au terme, ou quand il le demandait, qu'on pouvait dire, voilà, en tant que croyant, ce que je peux dire. Et quand on fait ça, on agrandit à leurs yeux le point de vue de la foi. Tandis que si on ne le fait pas, on diminue à leurs yeux le point de vue de la foi. Et ça, c'est très important. C'est capital. C'est pour ça que la philosophie, dans le monde d'aujourd'hui, où on a constamment un dialogue avec des athées, est si important. Si on était en pure chrétienté, on n'en aurait pas beaucoup besoin. On est de moins en moins en pure chrétienté. Et on est de plus en plus avec des quantités d'hommes, de femmes qui ont perdu la foi. Et qui vivent comme des païens. Alors il faut réveiller l'homme. Oui, et alors, il faut faire comprendre à l'athée que la foi n'est pas un a priori pour le croyant. Que de l'extérieur, ils disent que c'est un a priori. On dit, mais parce que vous n'avez pas la foi, vous considérez que c'est un a priori. Mais pour moi, ce n'est pas un a priori, la foi. Et bien comprendre toute la différence qu'il y a entre un a priori et la foi. La foi est une illumination intérieure de l'intelligence par l'amour. C'est par l'amour qu'il y a cette lumière, par un amour divin, qu'il y a cette lumière divine qui est donnée gratuitement. Si vous considérez que votre foi est un a priori, ça prouve que vous n'avez pas été jusqu'au bout du mystère de votre foi. Et que même, vous n'êtes pas entré beaucoup. Mais si quelqu'un dirait par exemple à un ami, c'est un a priori que tu aimes celui-là, il le renverrait promener. Non, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, et puis c'est tout. L'amour n'est pas un a priori. L'amour est une expérience interne. Et l'expérience n'est pas un a priori. Eh bien, la foi implique justement cette intériorité qui supprime l'a priori. L'a priori est toujours quelque chose d'extérieur. C'est un corps étranger, l'a priori. C'est pour ça que la philosophie, c'est la chasse de tous les a priori. Un vrai philosophe ne devrait avoir plus aucun a priori à la fin de sa vie. Et le dernier a priori, c'est l'a priori politique, le plus difficile à enlever, je crois. Parce qu'il dépend d'une quantité de choses en nous. Alors, comprenons bien que cette démarche que nous faisons pour celui qui l'a fait au plan philosophique, mais c'est tout simplement une démarche nécessaire qui s'impose. Pour le point de vue de l'intelligence. Pour celui qui n'a pas encore fait cette démarche, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre vous, pour celui qui n'a pas encore fait cette démarche, on lui demande la confiance au point de départ de tout enseignement. Il y a une certaine confiance, une fidesse, une foi, pas une foi divine, pas surnaturel, mais une foi de confiance. On se met à l'école des grands maîtres, d'Aristote, de saint Thomas, et on essaie de comprendre. S'il n'y a pas la foi au point de départ, cette confiance, on n'avancera pas. Mais cette confiance n'est pas un a priori. C'est qu'on a opté pour telle ou telle raison, de prendre ce chemin. Au point de départ, c'est évident. Il y a une confiance qu'on fait. Pour nous, chrétiens, c'est facile. Étant donné ce que dit l'Église depuis longtemps sur saint Thomas. Et même Vatican II l'a dit. Alors c'est Vatican III qui ne l'a pas dit. Mais comme Vatican III, c'est une imagination et une nostalgie de certains, je ne marche pas avec eux. Vous voyez, c'est important de comprendre que, quand je vous dis ça, vous devez le recevoir dans une attitude de confiance. Pour certains, c'est déjà une nécessité de l'intelligence. Pour d'autres, c'est une attitude, ce n'est pas un a priori. Avoir confiance dans celui qui nous enseigne, ce n'est pas un a priori. Ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que si c'était un a priori, au bout d'un certain temps, vous rejeteriez instinctivement l'enseignement que vous recevez. Alors que recevoir un enseignement, ça nous permet d'aller plus vite dans la confiance. Le De Magistro de saint Thomas, hein. Ça nous permet d'aller plus vite. Vous savez, les autodidactes, j'allais dire, c'est des pauvres types. Ça, c'est vrai. Les autodidactes, ceux qui veulent absolument tout découvrir eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est l'orgueil. Alors, c'est catastrophique. Ou c'est un manque d'intelligence. Alors, optez. Ne pas reconnaître qu'on a des maîtres, c'est désolant. C'est désolant. C'est un manque de magnanimité. Ne pas reconnaître l'autorité, c'est un manque de magnanimité. Ce sont des petits. C'est une étroitesse. Ça, il faut bien le voir. Alors, on ne le dit pas tout le temps, on est miséricordieux, n'est-ce pas ? Si chaque fois que quelqu'un était en opposition vis-à-vis de l'autorité, on dit, mais pauvre petite tête, pauvre petit cœur. Mais c'est vrai, ça. Oui, c'est parce que l'autorité peut devenir un obstacle. C'est la course à obstacles, vous savez. Regardez les chevaux, les petits et les grands. Il faut regarder la manière dont les purs sang sautent. Et les petits, hein, il faut un détour pour éviter. Ils évitent l'autorité. Quand on évite l'autorité, ça prouve qu'il y a quelque chose en nous, vous voyez, qui manque un peu de magnanimité, un peu de grandeur. C'est important, vous voyez, de réfléchir là-dessus, parce que ça, c'est d'ordre philosophique. Et comme hier, je vous ai donné une grande fresque, où je me suis dit, et on me l'a dit ce matin, faites attention, on va considérer ça comme un a priori. Je dis, non, c'est pas un a priori. C'est un itinéraire philosophique. Croyez-le, j'ai mis du temps à le faire. Alors quand vous aurez mon âge, vous comprendrez que ce n'est pas un a priori. Et que c'est de fait une recherche philosophique sur laquelle, à chaque point donné, on peut montrer que ça ne peut pas être autrement. Et qu'il y a un petit fil conducteur. Ceci est. C'est ce petit fil conducteur du réalisme qui va jusque-là. Ceci est, et puis le je suis pour la personne. Et quand vous dites je suis et que vous découvrez votre personne, alors là, il y a quelque chose qui est un haut plateau. Alors on peut y rester longtemps, je suis. Puis tout d'un coup, on repart et on découvre l'être premier. C'est curieux, notre intelligence, vous savez. Et l'exigence profonde de notre intelligence et de notre cœur. Hein. Parce que les a priori sont très souvent affectifs. Très souvent. C'est pas tellement notre intelligence, c'est beaucoup plus notre affectivité. Notre affectivité a beaucoup de peine dans le monde d'aujourd'hui d'accepter l'autorité. Et d'accepter un maître. Et d'accepter une école. Beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce qu'on a confondu autorité et pouvoir. Et que sans doute, beaucoup qui ont enseigné ont eux-mêmes confondu autorité et pouvoir. L'autorité d'un professeur qui enseigne la philosophie est une autorité extraordinaire. Parmi les expériences humaines, c'est la plus grande des autorités. L'autorité de Mitterrand n'est pas grand-chose à côté de cette autorité-là. Parce que l'autorité de Mitterrand, elle se confond très souvent avec un pouvoir. On le sait bien, il suffit de regarder les élections. Alors on s'aperçoit tout de suite qu'en réalité, c'est pas du tout l'autorité, c'est un pouvoir. Et on vit ses écrous pour que le pouvoir soit plus fort. L'autorité de celui qui enseigne des matières secondaires, enseigner le latin, par exemple, c'est quand même une autorité d'enseigner le latin. Mais c'est une autorité dont l'exercice est moindre qu'enseigner la philosophie. Parce que la philosophie, on touche l'intelligence et on éveille l'intelligence. Et nous avons des a priori terribles, ça il faut bien le dire, des a priori affectifs. Terrible par rapport à l'autorité. Tous, hein, celui qui dit qu'il n'en a pas, ça prouve qu'il n'a pas très bien scruté le fond de son cœur, hein, et qu'il reste encore dans l'imaginaire. Nous avons tous parce que nous sommes de notre siècle. Et Freud a été très intelligent pour ça, quand il a tué le père. Il a cru libérer. Et il a faussement libéré. Parce que supprimer l'autorité, ce n'est pas libérer. Libérer, c'est de redonner le vrai sens de l'autorité par rapport à la finalité. Quelqu'un qui enseignerait la philosophie sans chercher la vérité peut devenir un tyran. Alors il se rattrape aux examens. Tandis que celui qui enseigne la philosophie en cherchant la vérité, comme celui qui enseigne le latin en cherchant la vérité, il y a une petite vérité dans le latin, c'est bien évident. Celui-là, il a autorité et c'est un service. Enseigner, c'est un service. C'est un très grand service, puisque c'est le service par rapport à l'intelligence. Alors, ce que je vous montre maintenant, ce grand itinéraire, voyez, c'est pour vous montrer, parce que quelquefois on est dans un tunnel, vous savez bien, en philosophie, il y a des moments où on est dans un tunnel, on ne voit rien du tout, on dit « mais c'est idiot ce que je fais, heureusement que je dois le faire par obéissance, c'est pour ça que je continue, mais c'est quand même fatigant, c'est très fatigant de faire les choses par pure obéissance, surtout quand il s'agit de choses intellectuelles, je ne comprends rien du tout. » Alors, dans un tunnel, qu'est-ce qui repose? C'est de voir la petite lumière du terme. Vous voyez, les gosses sont comme ça, quand ils sont dans un tunnel, ils pleurent. Et là, si vous pouvez leur montrer la petite lumière qui est au terme, ils ne pleurent plus. On est des gosses au point de vue de l'intelligence. On cherche, on n'a pas encore découvert. Alors, si on montre la petite lumière au terme, et la petite lumière, c'est ça que je vous montre, c'est ce jugement de sagesse. Ce n'est pas un a priori, parce que, ayant découvert l'existence de Dieu, ayant découvert l'existence de l'être premier qu'on appelle Dieu, selon les traditions religieuses et selon la foi chrétienne, cet être premier, il est créateur, il crée dans sa sagesse et par surabondance d'amour. C'est donc dans la lumière de l'acte créateur qui est toujours actuel pour moi, ce que nous allons voir maintenant, toujours actuel. Vous comprenez, si Dieu m'avait créé pour vous 25 ans, 30 ans, pour moi un peu plus, donc je suis plus loin de l'acte créateur que vous. Alors, ce que je dis, c'est de l'ordre de la mémoire, de la réminiscence. Ce n'est pas philosophique. Je vous ai déjà dit, hein, si vous prenez comme point de départ de votre philosophie le premier acte d'amour que vous avez fait dans votre berceau, vous faites reposer votre philosophie sur la réminiscence. C'est du platonisme. Parce que le premier acte de votre amour dans votre berceau, il n'est plus actuel. Normalement, peut-être qu'il y a des phénomènes chez vous qui font que le premier acte d'amour que vous avez fait dans votre berceau, il est peut-être encore là actuellement, parce que vous en êtes toujours là. Ça arrive, ça arrive. Il y a des gens qui restent indéfiniment dans leur berceau. Ils ont tellement peur de quitter le berceau. Parce que vous comprenez, quand on quitte le berceau, on doit commencer à marcher seul. Tandis que quand on est le berceau, on se laisse porter. Alors effectivement, c'est tellement plus agréable de se laisser porter. Qu'il y en a, c'est connu, hein. Le complexe océanique. C'est du reste très beau. J'essaie d'avoir inventé ce mot, le complexe océanique. Je trouve ça admirable. On aime de rester dans le berceau. Et on y revient, parce que c'est un complexe, on peut tout le temps y revenir. On y revient dès qu'il y a un obstacle. Dès qu'il y a un obstacle. Quand on est dans le berceau, il n'y a pas d'autorité. C'est merveilleux. On est porté par la chaleur du berceau. C'est tellement agréable. On crie, maman est là, et elle me porte. On crie, le biberon est là, et il est chaud. Merveilleux, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, ce complexe océanique. Et vous savez, le complexe océanique, hein, creusez, vous le trouverez. Il est là pour chacun d'entre nous. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il y avait toujours un petit danger de ce complexe océanique, toujours un petit danger, on ne l'a pas complètement dépecé. Quand on l'a complètement dépecé, on dit, oui, je sais très bien que c'est pas commode de sortir du berceau et de se mettre à quatre pattes et après à deux pattes. Tous les matins, vous faites ça. Vous sortez du complexe océanique en vous levant. C'est un acte héroïque de se lever. Hein. Quand on est dans le complexe océanique, c'est un acte héroïque. On n'a pas envie de se lever. Tellement plus agréable de rester couché. Vous voyez, hein, c'est très curieux. Cette difficulté qu'on a de découvrir notre autonomie. Ayant découvert notre autonomie, d'accepter l'autorité. Alors, comprenons bien que toute cette démarche que nous faisons, c'est vrai, elle est quelque chose qui pour vous peut paraître lointain, mais elle est très proche. Le jour où philosophiquement vous comprenez que l'acte créateur de Dieu est actuel pour vous. Actuellement, Dieu crée mon âme. Je ne dis pas « il a créé mon âme ». Actuellement, il crée mon âme. Si actuellement, il crée mon âme et que je suis dans la possibilité, pas dans l'impossibilité, mais dans la possibilité d'affirmer cela, je peux donc essayer de comprendre comment cet acte actuel du Créateur sur moi doit me permettre de me connaître d'une manière différente que quand je me connais à partir du monde extérieur, en touchant la table, en touchant les réalités et en touchant celui qui est à côté de moi. Vous voyez, quand Plotin dit qu'il y a deux voies, la voie d'intériorité et la voie de l'extériorité, il y a quelque chose de juste. Mais attention, la voie d'intériorité, quand elle reste dans mon intentionnalité, le vécu, mon vécu, il est très limité, vous savez. Métaphysiquement, il est très limité, mon vécu. Parce qu'à côté de moi, il y a le vécu de mon voisin. Alors si je m'enferme dans mon vécu, je ne rejoindrai jamais mon voisin. Jamais. Vous pouvez courir après moi, parce que je suis plus âgé. Je ne me rattraperai jamais dans mon vécu. Alors je peux évidemment me retourner et je ne vous rattraperai jamais dans votre vécu. Donc, la voie d'intériorité, quand elle reste dans le vécu intentionnel, elle reste très limitée. C'est un cocon. Merveilleux. Un petit nid. La voie d'intériorité, c'est un appel vers une intériorité beaucoup plus profonde qui rejoint la transcendance de l'acte créateur. L'acte créateur sur moi n'est pas du vécu. Vous n'atteignez pas directement l'acte créateur de Dieu sur vous. Ce serait tellement plus facile. Ce serait merveilleux si c'était du vécu. Oui. Vous mettriez sous la douche métaphysique tous les matins le vécu, l'acte créateur de Dieu. Chaud ou froid? Plutôt chaud. Et plutôt assez bouillant. L'acte créateur de Dieu, il est actuel. C'est extraordinaire quand je pense à ça. Il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. C'est ça l'acte créateur de Dieu. Il me porte intérieurement. Ce n'est pas du vécu, c'est au-delà du vécu. Mais cependant, c'est ce qu'il y a de plus intérieur en moi. Ça dépasse de beaucoup mon vécu. Ça dépasse de beaucoup mon intériorité. Et je l'affirme. Je l'ai découvert. Je l'ai découvert intellectuellement. Ça me dépasse. Mais je l'ai découvert intellectuellement. Parce que mon intelligence n'est pas limitée au vécu. Mon intelligence est capable de dépasser le vécu. Mon intelligence est capable d'atteindre l'être premier créateur. Alors une fois que j'ai découvert ça, je comprends que j'ai là quelque chose de merveilleux. C'est la grande réalité. Et donc c'est la référence à la vérité ultime métaphysique. Comprenez bien ça. Ça, c'est très important pour comprendre ce que c'est que le jugement de sagesse. Comprenez bien que la vérité implique une référence à la réalité sensible. Ceci est jugement d'existence, la référence à la réalité sensible. Ceci existe. J'existe. De temps en temps, vous avez besoin de taper sur vous en disant « oui, j'existe ». C'est ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez. Quand vous avez beaucoup de peine dans un cauchemar, « oui, j'existe et ce n'est pas mon rêve, c'est autre chose, c'est ma peau, c'est ma main, c'est mon corps, j'existe, je suis ». Bon. Référence à la réalité sensible. Si vous découvrez qu'il y a une réalité transcendante, une réalité divine, au plus intime de vous-même, l'acte créateur de Dieu. Vous êtes suspendu à cet acte créateur. C'est l'expression d'Aristote, c'est si beau. On est suspendu à cet acte créateur. C'est vrai, puisqu'on est totalement dépendant de lui. La référence, vous voyez, dernière, c'est ça, à l'égard de cet acte créateur. Il y a donc deux mesures. Mesure de la vérité ou mesure de ma connaissance philosophique qui me donne la vérité. Si je suis conforme à la réalité, ce que je dis philosophiquement est vrai. Et si je suis conforme à cette réalité qui dépasse tout, parce qu'elle est première, l'acte créateur de Dieu en moi, c'est quelque chose d'éternel qui donne le sens à tout le reste. Je suis en présence d'une autre vérité, mais qui reste une vérité philosophique. C'est la vérité ultime. Je ne peux pas aller plus loin. Au plan philosophique. Et c'est ça la grandeur de ce jugement de sagesse. C'est qu'il se réalise dans une contemplation. Je suis en présence de celui qui, pour moi, est mon créateur et mon père. Alors je ne le vois pas, hein. Faut pas croire du tout, c'est l'erreur de l'ontologisme qui dit qu'on voit. Non. On est en présence. C'est une présence invisible, mais réelle. Plus réelle que le réel sensible. Et je me réfère à lui pour essayer de comprendre ce que je suis. Qu'est-ce que je suis ? Une réalité métaphysiquement fêlée. C'est pas si mal. Ça explique des quantités de choses. Distinction en moi entre essence et existence. Et l'unité se fait grâce à l'acte créateur. Si Dieu ne me soutenait pas actuellement dans son acte créateur, je disparaîtrais. D'où cette question si importante. Le créateur peut-il annihiler son œuvre ? Si Dieu pouvait m'annihiler, quelle frousse j'aurais. Maintenant j'existe, oui, mais, ce soir, je serais peut-être annihilé. S'il y a une fêlure en moi, j'existe à cause de quoi ? Il y a une colle métaphysique, hein, qui fait que la fêlure tient. C'est quoi la colle métaphysique ? L'acte créateur de Dieu. Qui me tient dans l'unité. Et qui fait que j'existe et que je suis. Alors cette grande question, c'est une question très importante. Dieu peut-il annihiler le monde qu'il a créé ? Peut-il annihiler son chef-d'œuvre ? Alors je dois comprendre qu'il le peut, puisqu'il l'a fait. Si je regarde uniquement la toute-puissance de Dieu, et uniquement la toute-puissance de Dieu, je dois dire que Dieu peut annihiler tout ce qu'il a fait. Ça fait comprendre, vous voyez, ces expressions d'écriture, que Dieu a envie de vomir le pauvre homme pécheur. Hein. Ça existe de temps en temps dans l'Ancienne Alliance, au moment du déluge, hein, juste avant le déluge. Je les vomirai. Et nous faisons partie du péché. Pas dire hein, c'est ceux d'avant, maintenant nous sommes tellement changés que Dieu ne peut plus nous vomir. Pas du tout. Je les vomirai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Dieu se plaçait du côté de la justice et de sa toute-puissance, il nous annihilerait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai, si Dieu se plaçait du côté de la justice et sa toute-puissance, nous serions réduits à rien. Parce que nous sommes pécheurs, tout simplement. Mais l'acte créateur de Dieu relève aussi de sa sagesse. Et au nom de sa sagesse, Dieu qui crée à partir de rien, s'engage dans son acte créateur. Il y a une alliance. Et pourquoi Dieu affirme toujours cette alliance ? C'est quand même très important. Il y a une alliance. Dieu s'est engagé dans sa sagesse. Et ce serait contraire à la sagesse de Dieu d'annihiler. Ce serait contraire à sa sagesse. Surtout lorsqu'il s'agit de l'homme. Parce qu'il est non seulement créateur, mais il est père. Et ce serait contraire à sa paternité, à la sagesse de sa paternité d'annihiler l'homme. Même si l'homme fait de grosses bêtises. Dieu, au nom de sa sagesse, au nom de sa miséricorde, supporte, et n'annihile pas. Ah, il peut transformer, ça c'est autre chose. Il peut transformer notre univers. Hein. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ça c'est un langage de foi. Au point de vue philosophique, je me pose simplement la question, est-ce que Dieu peut annihiler ? Je dis oui, mais en raison de sa sagesse, Dieu ne le fait jamais. Dieu n'annihilera jamais. Et donc j'ai une confiance totale dans la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de mon Père, du Père. Et c'est ce qui me permet de dire que je sais que Dieu me garde. Il me garde dans ses mains. In manus tuas, hein, ça a une signification au plan philosophique. Il me garde dans ses mains, il me garde dans sa parole créatrice. Il me garde dans son verbe, dans sa lumière de sagesse. Il me garde parce qu'il m'aime. Dieu n'est pas sadique. Un artiste qui brûle son œuvre, ça peut se faire. Je vous l'ai déjà dit. Quand Rouault m'a parlé qu'il avait brûlé 300 de ses tableaux, il fallait l'entendre dire ça. J'étais très heureux de l'entendre. À un moment donné, il a brûlé 300 de ses tableaux. Vous voyez ce que c'est, hein? Alors Rouault disait, et on dira que Rouault est sadique, qu'il a brûlé ses enfants. Et on dira qu'il est sadique. Et non, il n'est pas sadique. il veut être vrai. Ces tableaux ne me disaient plus rien. Ils ne correspondaient pas à ce que je suis. Et donc, je devais les brûler. Si je les avais vendus, je les aurais laissés à ceux qui avaient de mauvais goût. Mais puisque je les ai encore, et qu'ils ne correspondent plus, vous voyez, ça c'est l'artiste intransigeant. Thoreau était un breton, donc un artiste breton. Il a ses exigences de vérité que les autres ne comprennent pas toujours. Il ne faut pas l'oublier, c'est du granit, c'est quelque chose de particulier. Dieu n'est pas qu'artiste, il est père. Un père ne peut jamais brûler ses enfants. Même si une mère abandonnait ses enfants, Dieu n'abandonnerait pas Israël. Donc, il y a là un acte, quelque chose de très important dans le jugement de sagesse, au point de vue du gouvernement de Dieu. Voir que Dieu crée, et Dieu est celui qui garde. Il est le gardien de son œuvre, au sens très très fort. Et son œuvre, il ne peut pas l'annihiler. À cause de sa sagesse, parce qu'il est père. Il faut ensuite regarder que seule la créature spirituelle est directement dépendante de Dieu. Quand il s'agit des petites souris, quand il s'agit des petits veaux, quand il s'agit des abeilles, quand il s'agit des arbres, quand il s'agit de notre monde physique, il n'est pas immédiatement créé par Dieu. C'est-à-dire, attention, il est, à un moment donné, il a été créé, je ne sais pas quand, il a été créé dans le temps, notre monde physique, je ne sais pas comment. Je ne sais pas sous quelle forme. Et Dieu ensuite l'a gardé. Le conservare de Dieu. Mais Dieu l'a gardé à travers des causes secondes. Parce que ce monde est un monde de devenir. Il existe, mais il devient. Tout notre monde physique devient. Tout notre monde physique est en mouvement. Tout, absolument tout. Il est capable d'être corrompu. Il est capable d'être corrompu. Et ça, plus la science physique, je dirais, analyse, plus elle voit cela. Plus on voit la corruptibilité de notre monde physique. Et de tous les vivants biologiques. Par le fait même, ils ont été créés par Dieu à un moment à partir de rien, c'est évident. Avant notre univers, il y avait Dieu, ou il y avait les anges. Mais il n'a pas créé notre univers physique à partir des anges, vous comprenez? Il n'a pas cherché une réserve de matière dans les anges. Puisque de fait, les anges sont indépendants de la matière. Un jour, Dieu a créé un monde physique. Un jour. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et philosophiquement, je peux le dire. Je peux dire qu'à un moment, Dieu a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas quand, au plan philosophique. Je ne sais pas quand du tout. Il l'a créé. Comment l'a-t-il créé? Je ne sais pas. Je laisse les savants inventer des tas de trucs qui sont des mythes. Le Big Bang, c'est un mythe. Ce n'est pas une vérité. Non, ce n'est pas une vérité. C'est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où cette hypothèse apporte des explications. Et qu'on mène une autre hypothèse demain, très bien. C'est pas la vérité, je ne sais pas. L'homme ne saura jamais comment Dieu a créé notre univers. Il ne le saura pas. Il peut y mettre des hypothèses, mais poup, il ne peut pas le savoir. Parce que je n'existais pas avant. Donc je n'ai pas l'expérience. Mais Tranquillisez-vous, un jour, dans votre vision béatifique, nous verrons comment Dieu a créé le monde. Ce sera un beau cinéma, hein, extraordinaire. Dans notre vision béatifique, nous verrons comment Dieu a créé le monde. Et alors à ce moment-là, il y aura les petites discussions théologiques, extrinsèques à la vision béatifique, où nous pourrons dire, c'est étonnant, on n'avait rien compris du tout. Ce sera très étonnant de voir ça. Et on verra dans la vision béatifique comment Dieu a créé le monde. Et comment il a créé tout cet univers physique pour l'homme. Et on verra l'erreur de Freud, la grosse erreur de Darwin, grosse erreur. Ils sont mis le doigt dans l'œil, conscient que Dieu voulait créer des animaux pour qu'à partir de la matière vivante de l'animal, il fasse l'homme, que Dieu n'avait pas plus de magnanimité que Darwin. On verra tout ça. Ce sera magnifique, ce sera extraordinaire. Évidemment, c'est rien du tout à côté de Dieu. C'est rien du tout à côté de Dieu, mais c'est quand même beau de voir ça, parce que Dieu est créateur. Dieu a communiqué la vie. Donc, Dieu a créé notre univers, ça je dois l'affirmer. Philosophiquement parlant, dans un jugement de sagesse, Dieu a créé tout notre univers. Il l'a créé à partir de lui. Mais cet univers physique, comme univers physique, il est dans le devenir. Et parce qu'il est dans le devenir, il est gardé par Dieu par des causes secondes. Très important, vous voyez, d'expliquer ça, parce que ça permet toutes les solutions. Qu'il y ait une évolution dans le monde physique, il n'y a aucune difficulté, métaphysiquement parlant. Aucune. Et au terme de ce monde physique, pour ce monde physique, Dieu a créé son chef-d'œuvre. Il a créé cette alliance de l'esprit et de la matière. Ça, il fallait y penser. Vous n'y aurez pas pensé, vous. Nous aurions fait comme Platon. Hein. Il vaut mieux que l'esprit soit en dehors de la matière. Et Dieu n'est pas platonicien. Dieu est plutôt à tendance aristotélicienne, vous voyez ? Plutôt. Une espèce de réalisme extraordinaire de Dieu qui fait que vous comprenez bien, il n'est ni aristotélicien ni platonicien, comprenez bien, parce qu'il est au-dessus. Mais il y a un réalisme du Créateur, d'unir l'esprit de la matière. Vous savez, ça c'est le réalisme le plus étonnant qui soit. Et c'est le chef-d'œuvre le plus étonnant, qui unit deux contraires, deux extrêmes, l'esprit et la matière. Et l'esprit est créé directement par Dieu. L'esprit seul subsiste, au sens fort, capable d'avoir une autonomie dans l'être. Et c'est pour cela que lorsqu'il s'agit de l'esprit, l'acte créateur de Dieu est toujours présent. Vis-à-vis de notre corps, vivant, dans lequel l'esprit a été créé, dans lequel l'âme spirituelle a été créée. Notre corps vivant dépend d'un grand atavisme, donc de causes secondes. Nos parents sont des causes secondes. Il y a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Et vous remontez comme ça jusqu'à Adam et Ève. Il y a une filière. Et il sera beau de voir ça hein, dans la vision béatifique, voir comment Adam et Ève, chef, à partir de là, tout. Très étonnant, toutes les causes secondes qui ont abouti à ce petit chef-d'œuvre que nous sommes. C'est un petit chef-d'œuvre. Évidemment, c'est un chef-d'œuvre très caché, personne ne le reconnaît, mais nous-mêmes, on peut le reconnaître. C'est toujours déjà quelque chose. Quoi. On est un petit chef-d'œuvre. Et c'est vrai, chacun d'entre nous, on est un petit chef-d'œuvre pour Dieu. Il y a au moins Dieu et nous-mêmes qui le reconnaissons. C'est déjà quelque chose. Parce que c'est ça qui nous donne une indépendance farouche. Notre autonomie, elle est là. C'est parce que nous dépendons directement de Dieu par la création de notre âme et que nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos propres parents, qu'à nos propres grands-parents. Il y a une ressemblance à l'égard de Dieu qui est fondamentale, qui est radicale. C'est magnifique de découvrir ça. Mais ça vaut la peine comme libération. Toute la philosophie n'aurait d'autre sens que nous montrer qu'on ressemble plus à Dieu qu'à ses propres parents. Je vous affirme que ça vous libère fameusement. Plus besoin de s'opposer à ses parents. Il suffit tout simplement d'être vrai. Et si on est vrai, on dépend de Dieu plus que de ses propres parents. Il y a un lien direct avec Dieu. On est conditionné par son pays, on est conditionné par sa culture, mais uniquement un conditionnement. Les déterminations fondamentales de notre esprit, c'est directement en relation avec Dieu. Ça, c'est très grand, cette vision, vous voyez, de comprendre que lorsqu'il s'agit de l'esprit, l'esprit dépend directement de Dieu. Parce que l'esprit, il existe, il est, et il subsiste. C'est pour ça que l'intelligence est faite pour l'être, vous voyez, et non pas pour le devenir. Saint Thomas ne dit pas « prius cadit in intellectus movans, motum ». Non, « primus cadit in intellectus ens ». Et ceci, fondamentalement, c'est parce que justement l'esprit dépend directement de Dieu, et donc il est. Il y a en nous la possibilité, vous voyez, de distinguer le devenir et l'être. Ça prouve que l'intelligence est faite pour l'être. Parce que l'être est premier par rapport au devenir. En Dieu, pas de changement. Il est. L'éternité est antérieure au devenir. L'éternité est antérieure au changement. Or, dans mon être spirituel, dans mon être spirituel, dans mon âme spirituelle, j'ai un contact direct avec celui qui est. Je suis. Vous ne définissez pas du tout votre être et votre personne en disant « je deviens ». Attendez demain, vous verrez. Non, je suis. Et quand vous vous présentez à quelqu'un, vous dites « je suis ». Votre carte d'identité. Je suis un tel, je suis. Évidemment, vous savez très bien vos limites, mais ça veut rien, vous existez. Et vous ne dites pas, à demain vous verrez ce que je suis. Non, c'est actuellement que vous voyez quelqu'un. Et quand vous voyez votre voisin, c'est il existe, il est. Donc, il y a tout ce problème très important de comprendre comment l'âme spirituelle, en face de cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, est capable d'adorer. Le philosophe doit s'intéresser à l'adoration. Et l'adoration lui fait comprendre comment il est une créature. Et vous rejoignez ce que nous voyons dans l'éthique religieuse, comment l'adoration. Et c'est vrai, cette éthique religieuse repose sur cette vision de sagesse. Je suis un être totalement dépendant d'être de Dieu et de la création. Je vois que cet être, chef-d'œuvre de Dieu, Dieu lui a donné un pouvoir sur l'univers et sur son corps. J'ai une maîtrise sur moi-même. Je suis capable de m'éduquer. J'ai d'abord été éduqué un peu en récriminant le plus que je pouvais. C'est comme ça, on donne des coups de pied à droite et à gauche, des coups de pied de l'âne. À l'égard de ceux qui nous voulaient du bien, on a donné des coups de pied. Très vite, l'enfant donne des coups de pied, vous avez remarqué. Même dans son berceau, on donne des coups de pied. Très curieux, ça. C'est le vieil âne. Mais il y a en nous quelque chose de plus. On est capable de dominer notre propre corps et l'univers. Alors vous voyez, là, il y a quelque chose de très très beau à voir. Je vous l'ai déjà dit à propos de la philosophie de l'art, mais c'est bien d'y revenir. Dieu a voulu que l'homme domine l'univers. Et Dieu a voulu que l'homme, par son esprit, puisse achever l'œuvre du Créateur. Et il achève l'œuvre du Créateur parce que le Créateur n'a pas voulu que son œuvre physique soit parfaite, que le monde physique soit parfait. Il a laissé la place à l'homme. Alors là, c'est la délicatesse infinie du Père. Voyez, on dirait aujourd'hui, il laisse un espace à l'homme dans notre univers. Évidemment, vous ne pouvez pas changer beaucoup le soleil. Dieu a créé le soleil pour montrer qu'il était capable de créer des réalités que l'homme ne pouvait pas toucher. L'arbre de vie, le soleil. Vous ne pouvez pas le toucher. Hein. Vous savez, si vous allez faire une petite expérience dans le soleil, je ne crois pas que vous reviendriez. Je ne crois pas. Je crois que il n'y aurait plus grand-chose. Oui, il y aurait votre âme qui partirait vers Dieu. Moyen-Âge, on dirait, on verrait la petite colombe qui s'en va, mais la petite colombe dans le feu du soleil, là, elle n'aurait plus beaucoup de poils. Elle n'aurait plus grand-chose. Oui. L'âme qui s'en va. Dieu a voulu créer des réalités physiques que l'homme ne puisse pas toucher. Dans un jugement de sagesse, c'est ce que je vois, cet univers. Hein. Il a créé des réalités physiques que l'homme ne puisse pas toucher. Pour que l'homme ne soit pas dans un état d'orgueil. Le soleil, la lune on peut la toucher. C'est extraordinaire. Hein? Avec le symbolisme de la lune et Marie, c'est extraordinaire. Pour la médiation de Marie, c'est extraordinaire. On peut toucher la lune, on ne peut pas toucher le soleil. Vous pouvez aller habiter quelques temps dans la lune, quelques temps. Vous pouvez prendre des photographies de la lune, c'est extraordinaire. Vous pouvez emmener votre petite technique là-bas, en emmenant votre provision d'air et d'atmosphère. Vous pouvez y aller un petit moment, pas trop longtemps, parce que c'est pas très en code naturalité avec nous. La lune, vous savez, elle est très belle, de loin. De près, pas très habitable. Pas de place pour l'homme dans la lune. Pourquoi ? Pas de trace de vie. C'est curieux. La première expérience que l'homme fait, voyez, de toucher une matière non vivante. C'est une fameuse expérience. Et cette expérience, nous l'avons faite. J'ai pas été cosmonaute. Ça aurait été difficile parce que ça demande pas mal d'exercice. Et ça demande une disponibilité. Puis j'étais trop âgé déjà. Mais quand même, c'est quand même intéressant de l'être, c'est extraordinaire. De pouvoir être dans un lieu où il n'y a que la matière. Sans la vie. Et c'est ça qui fait que c'est pas hospitable, c'est pas accueillant pour l'homme. N'est accueillant pour l'homme que ce qui est vivant. Et déjà le désert, c'est rude, mais c'est pas la lune. La mer morte, un peu plus. Et vous n'y passez qu'un petit moment, la mer morte. Pas de chant d'oiseaux, rien, rien. D'un petit signe. Un petit signe que dans notre univers, il y a des réserves de mer morte. C'est vrai, si vous creusez notre univers, au fond, l'atmosphère, c'est pas grand-chose. Hein. L'atmosphère, c'est pas grand-chose. C'est ça qui est le grand berceau de l'humanité. C'est l'atmosphère. Si vous quittez l'atmosphère, vous devez emporter votre atmosphère dans votre poche pour être sûr d'avoir de quoi respirer. Et plus on étudie l'atmosphère, plus on voit que c'est invraisemblable. Hein. Lisez une fois une étude scientifique sur l'atmosphère. Vous comprenez que la sagesse de Dieu qui a pensé le berceau de l'homme, l'Éden, le berceau de l'homme dans cet univers. Et l'homme peut dominer cet univers. Oh, très peu de choses, très peu de choses. Il domine peu la lune. Il y met un drapeau. Pas plus. Et puis il la quitte le plus vite possible. Il va dans la lune pour prendre un petit peu de retrait pour mieux voir la terre et mieux comprendre. Et la terre, Dieu a laissé à l'homme la possibilité de la transformer. Et ça pour l'homme, pour que l'homme puisse montrer sa puissance. Alors, vous voyez, c'est risible. Quand l'homme, montrant sa puissance sur la terre, construit des choses extraordinaires, et qu'il est fier et orgueilleux de ça, et qu'il croit qu'à partir de là, il est un dieu. Quand on regarde la lune, quand on regarde le soleil, quand on regarde toutes les galaxies, mais c'est rien du tout l'atmosphère de la Terre. Il n'y a que là qui domine. Oui, c'est un jeu d'enfant. C'est comme si un enfant jouait, puis dirait à son papa, maintenant j'ai plus besoin de toi, tu vois. Je mets deux dominos l'un au-dessus de l'autre. J'ai plus besoin de toi. Alors le père dit, mais qu'est-ce que tu feras pour le repas de midi? Quand tu auras faim? Et des dominos. Il faut de temps en temps prendre un peu ce recul métaphysique, voyez, de la vision de sagesse. C'est la vision de sagesse qui fait ça. Alors on comprend très bien la parole du psaume. Incipiens exit in corde suo non est Deus. C'est vraiment incipiens, l'insensé. C'est le gosse qui met deux dominos l'un au-dessus de l'autre et qui dit, papa, j'ai plus besoin de toi. Alors le père dit, mais les dominos, qu'est-ce qu'il les a fait? C'est toi. Ou la petite auto, vous savez, mécanique, merveilleuse. Les pompiers. J'ai plus besoin. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut comprendre ce côté risible, je dis bien risible, de l'homme qui dit Dieu n'existe pas. Vous voyez, face aux athéismes, il faut ce jugement de sagesse qui comprend comment l'homme peut faire quelque chose. Il fait des choses grandes. Mais qu'est-ce que c'est, comparativement à tout l'ensemble? Dans cette vision-là, on doit se poser la question, et je crois que c'est là où on se la pose, et là il y a une question très importante. L'âme spirituelle, capable de s'élever jusqu'à Dieu, capable de dominer son corps, de le transformer, capable de changer cette petite terre en respectant l'atmosphère. Parce que le jour où on ne respecte plus l'atmosphère, on sait ce que ça fait, les pollutions. Est-ce que cette âme spirituelle est immortelle? Là, il y a un problème philosophique extrêmement important, parce que c'est le fondement de toutes les traditions religieuses. Est-ce que mon âme, capable de connaître, capable d'aimer, est-ce que mon âme est immortelle? Vous voyez, ce n'est pas le problème de l'annihilation, c'est le problème de l'immortalité. Et je crois qu'on ne peut répondre philosophiquement à ce problème que dans une vision de sagesse. Apologétiquement, théologiquement, saint Thomas dit que parce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'universel, c'est un signe que mon âme est immortelle. Et vous voyez bien, c'est un signe. Donc, pour la rhétorique, c'est très important de se servir de signe. Mais pour un raisonnement proprement philosophique, ce n'est pas suffisant, c'est une attente. Du fait même que je suis capable d'enseigner la grammaire, ça prouve que j'ai une âme immortelle. Du fait même que je suis capable d'enseigner la philosophie, ça prouve que j'ai une âme immortelle. C'est extraordinaire ça. Du fait même que je suis capable de penser, et de penser le chat, de penser un terme universel, de penser animal, ça prouve que mon âme est immortelle. Mais voyez, c'est un signe qui m'alerte. La véritable preuve, c'est dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, je vois que Dieu ne peut pas annihiler ce qu'il a fait. Et s'il a fait l'esprit capable de dominer la matière, cet esprit ne peut pas être vaincu par la matière. Mon esprit ne peut pas être vaincu par la mort, parce que la mort, c'est biologique. La mort, c'est la conséquence de la maladie. C'est la conséquence du devenir. La mort, c'est un devenir qui devient substantiel et qui amène une rupture, une séparation. C'est ça, la mort. Mon esprit n'est pas touché par la mort. Mon esprit est capable d'atteindre l'être. Et si mon esprit est capable d'atteindre l'être, mon esprit a quelque chose en lui qui dépasse tout. Et Dieu ne peut pas l'annihiler. Vous voyez, ça c'est négatif. C'est très fort. Mon esprit ne pourrait être qu'annihilé, puisqu'il est au-delà de la matière. Donc il n'y a plus de corruptibilité en lui. Il est au niveau de l'être. L'être, il est. L'être est au-delà du devenir. Et comme mon intelligence est capable d'atteindre ce qui est, et d'atteindre l'existence de Dieu, cela montre qu'il y a dans l'intelligence humaine quelque chose de radical, au-delà de toute corruptibilité, qui est en connaturalité profonde avec ce qui est, et qui est en connaturalité profonde avec l'être premier. Mais évidemment, ceci est vécu au plus intime de mon intelligence. J'allais presque dire dans un au-delà du vécu, et quand même vécu, puisque c'est l'affirmation que je fais, ceci est, il est nécessaire qu'il existe un être premier, acte pur, immuable, éternel. Et si je peux affirmer l'éternité de l'être premier, cela montre qu'il y a en moi un lien avec cette éternité. Si je peux affirmer que Dieu est créateur et créateur de l'esprit immédiatement, cela prouve qu'il y a un lien entre l'esprit et le créateur, et que ce lien montre que je suis au-dessus.